Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. On est ensemble, comme d'habitude, jusqu'à midi. Au programme, nous allons débuter notre série en hommage à la jeune soprano Jody DeVos, foudroyée par un cancer à l'âge de 35 ans. Jody DeVos avait gravé 6 albums pour le label Alpha, qui ont été réunis et complétés par un concert inédit. Nous en diffuserons les plus beaux fleurons. Le jeune quatuor Webern propose une nouvelle lecture des quatuors de Schoenberg, témoignant de l'évolution créative du fondateur de la seconde école de Vienne. Et pour débuter notre émission, nous aurons le grand plaisir de nous entretenir avec Astrid Cyranossian, l'une des plus brillantes, généreuses et attachantes parmi les violoncellistes françaises.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Astrid Cyranossian.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio. De retour de Berlin, vous vous êtes produite en concert. Je rappellerai à nos auditeurs que vous êtes née à Romans-sur-Isère dans une famille de musiciens d'origine arménienne. Musicienne précoce, après avoir essayé le violon pratiqué par votre sœur aînée Chouchane, c'est à 4 ans que vous rencontrez le violoncelle. Votre parcours vous conduit du conservatoire de Romans au CNSM de Lyon, à Bâle en Suisse, puis en Belgique, où vous bénéficiez de l'enseignement de Gary Hoffmann, un élève du grand Janos Starker. Vous êtes lauréate de prestigieux concours internationaux, Reine Elisabeth de Belgique, Christophe Penderecki en Pologne, à Cracovie. Et depuis, vos activités sont multiples. Vous menez une brillante carrière internationale, invitée par des partenaires d'exception, Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Martha Argerich, Yo-Yo Ma, etc. Vous vous produisez dans des plus grandes scènes, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Carnegie Hall de New York, Musikverein de Vienne, Philharmonie de Berlin et jusqu'au Théâtre aux Colonnes de Buenos Aires. Vos activités sont multiples, vous êtes présente sur les chaînes de télévision, vous avez gravé une dizaine d'enregistrements sous le label Alpha, tous salués par la presse, vous poursuivez également une carrière de pédagogue, CNSM de Paris, École Normale de Paris, Alfred Cortot. Et très dynamique, vous êtes directrice artistique de 4 festivals de musique. Depuis 2015, les musicales à Romans-sur-Isère. Depuis 2023, le festival de violoncelle Adèle Clément dans la Drôme. Depuis 2024, le festival Nadia et Lily Boulanger à Trouville. Et même, depuis 2025, le festival Montrachet Jazz, réunissant le jazz et le vin dans la convivialité. Très généreuse, vous fondez en 2019 la mission Spidak Sevan, destinée à venir en aide aux enfants du Liban et d'Arménie à travers des projets musicaux. Alors, après tout ce CV impressionnant, j'aurais une première question. Comment faites-vous, Astrid Cyranossian, pour mener si brillamment plusieurs vies en même temps?
Bah écoutez, merci beaucoup pour ce portrait qui me rappelle de très belles aventures et puis de très beaux souvenirs et puis encore plein de choses à bâtir. J'ai pas forcément l'impression d'avoir plusieurs vies. Je suis consciente d'être très active. Mon entourage me le rappelle souvent et me rappelle aussi de temps en temps d'essayer de prendre un peu plus de temps pour me reposer. Mais voilà, je sais pas. Peut-être le fait d'être née dans une double culture, ça m'a donné peut-être déjà la richesse de plusieurs langues, de plusieurs horizons qui se complètent et l'envie surtout, cette envie de rageuse, de force de vie qui me vient de ma famille et puis cette grande chance d'être née en France qui me pousse et qui me donne envie d'effectuer et de mener à bien des projets et puis d'essayer en tout cas, voilà, on peut, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai voulu faire dont je parle pas forcément, mais disons que voilà, d'être actif, d'essayer de créer, d'essayer de partager, de découvrir, d'être toujours en quête de nouvelles choses, avec évidemment beaucoup de qualité, c'est toujours quelque chose qui pour moi, voilà, c'est un moteur et qui m'apporte beaucoup de joie et que je suis évidemment très heureuse de partager.
Alors, vos racines arméniennes, on va justement vous écouter dans une mélodie populaire que vous avez enregistrée dans l'album Duo Solo, paru chez Alpha en 2022, avec mon arménien, qui est un petit peu juste tout de même pour cette première leçon, si je peux dire que vous allez me donner, et vous allez chanter une mélodie qui s'appelle Sareri Ovim Mernem. Qu'est-ce que cela veut dire en français, Astrid, si
alors,
la notion?
Alors, Sare Virovin Mernem, c'est un chant d'amour à la destination des montagnes. Sare, c'est la montagne. Rove, c'est le vent. Et Mernem, c'est que je meurs au vent de tes montagnes. Voilà. C'est un chant d'amour des montagnes que j'aime beaucoup. C'est un petit peu, la langue arménienne a beaucoup de pudeur et elle utilise beaucoup les formes métaphoriques pour exprimer l'amour. Et les montagnes étant un élément évidemment à la fois de résistance et puis d'éternité pour, aux yeux des Arméniens. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de chants d'amour qui évoquent les montagnes avec la pudeur de ne pas vouloir nommer l'être aimé.
Écoutons ce chant d'amour par vous, Astrid Cyranossian. Après cette très jolie mélodie arménienne, qui était peut-être une évocation de vos souvenirs familiaux, Astrid Cyranossian?
Oui, c'est-à-dire que c'est une chanson qui m'a été transmise par ma grand-mère. Donc forcément, tout le côté mélodie populaire arménienne me vient du côté maternel, alors que du côté paternel, mon père étant directeur d'un conservatoire, j'avais le côté plutôt musique savante. Mais voilà, c'est, je trouve que c'est assez beau finalement. Je me suis retrouvée en fait de temps en temps avec des amis qui ont des origines françaises et donc que leurs familles sont en France depuis des générations et des générations et qui me montraient par exemple dans leur bibliothèque en me disant voilà, ça c'est, j'ai reçu cette collection de livres de la part de ma grand-mère ou j'ai reçu ce tableau de la part de mon grand-père. Et moi finalement, je n'ai pu recevoir que de l'héritage immatériel de la part de mes grands-parents, puisque évidemment ils sont arrivés dans les années 72 et que je ne suis qu'une première génération. Donc voilà, ce patrimoine immatériel que je suis très fière de partager et très fière de perpétuer à mon tour.
Mais vous l'avez fait prospérer, si je peux dire.
Eh bien, je sais. En tout cas, je l'ai reçu avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et puis surtout. Quelque part aussi une manière de voir la musique comme une transmission douce, malgré une histoire qui aurait pu être dure, peut-être sur le papier traumatisante, mais en tout cas, je n'ai jamais reçu dans mon éducation cette lourdeur ou alors ce poids de l'histoire familiale.
Qui a été tragique.
Oui, qui a été tragique et qui continue, qui n'est pas un glorieux. Mais voilà, en tout cas, je pense que je dois beaucoup à l'intelligence et à la douceur de la tendresse de ma famille de toujours m'avoir, en tout cas, donné mes origines par la culture, par l'histoire, par la richesse à transmettre, et en aucun cas par une violence ou une volonté de je sais pas de répondre par la violence. En tout cas, voilà, ça a toujours été finalement la plus belle arme qui soit, malgré tout ce qui s'est passé dans l'histoire de ma famille, m'a été donnée, à savoir comme la culture comme plus belle arme et comme ouverture vers
Alors, restons dans la transmission, justement, avec cette mission Spidak Sevan que vous avez créée à Strix Iranossian.
Oui, alors Spidak Sevan, je l'ai créé en 2019. Et ça a été pour venir en aide aux enfants en Arménie, au Liban. Alors, j'ai été un petit peu malheureusement visionnaire parce qu'il y a eu l'explosion à Beyrouth et ensuite la guerre en Azerbaïdjan. Mais la mission qui devait être assez douce, portée vers la transmission et l'apport de matériaux pour des étudiants musiciens, s'est transformée en aide quelque part vitale, notamment des enfants qui ont été victimes de la guerre qui a eu lieu avec l'Azerbaïdjan. Voilà, ça a été, c'est pour moi c'est essentiel. Alors, dans mes multiples vies, comme je vous l'avais dit, je n'aime pas partir en vacances. Voilà, j'ai toujours envie de me sentir utile dans tout ce que je fais. Donc voilà, cette mission Spidak Sevan, ça me permet d'aller en Arménie, ça me permet aussi de pouvoir transmettre le. Quelque part, la douceur et la chance que j'ai d'être née en France.
Alors, j'ai eu le bonheur, Astrid, d'assister à la magnifique soirée que vous aviez organisée en novembre à la salle Corto, en soutien aux enfants d'Arménie, avec des textes superbes lus par Sylvain Tesson, un hommage à Charles Aznavour, en trio, avec Nathanaël Gouin et Félicien Bru, accordéoniste, que nous apprécions beaucoup aussi ici, que nous avons reçu d'ailleurs dans une précédente émission. Et vous aviez interprété la sonate pour violoncelle et piano de Jean Krah avec Nathanaël Gouin que vous aviez gravé dans votre dernier CD. Alors pourquoi ce titre, Les Invisibles? Et aussi, Jean Krah a une vie très très étonnante pour un musicien.
Oui, alors je pense que voilà. Alors on parle de multiples vies. Jean Krah, faut dire Jean Krah. Apparemment, c'est la famille qui m'avait demandé de dire Jean Krah, pas Jean Krah. Voilà, Jean Krah qui était un amiral de la marine française, brestois, qui a inventé la célèbre règle de Krah, utilisée par les navigateurs du monde entier quotidiennement, et puis à une certaine époque par l'aviation également. Il écrivait sur les bateaux de la musique, et en fait, j'ai découvert sa musique avec énormément de joie et de bonheur, et finalement, c'est le seul compositeur, Jean Krah, qui est capable de pouvoir évoquer l'océan et la mer, mais non pas d'un point de vue carte postale, parce que beaucoup de compositeurs, évidemment, ont évoqué, notamment les impressionnistes français, la mer, l'océan, tout ça, mais d'un point de vue, quelque part, depuis la plage, mais d'être dans la houle du mouvement de l'eau, qui est quand même une matière qui nous est pas forcément familière, si on n'a pas l'habitude d'être sur, si on n'est pas navigateur ou si on n'est pas sur un bateau, eh bien, ça donne une consistance et une matière très, très intéressante dans sa musique. Et alors, on a la chance qu'il ait donc gravé cette sonate pour violoncelle et piano lorsqu'il était assez jeune marin. Et alors, on est vraiment dans une musique, je trouve, il y a une très, très grande richesse de composition, notamment en France entre l'entre-deux-guerres. Et je pense que finalement les compositeurs, les compositeurs, les musiciens avaient plusieurs couches de vie. Le fait que nous ne soyons plus que musiciens maintenant, c'est quelque chose d'assez nouveau, assez moderne. Mais Jean-Sébastien Bach lui-même, entre tous ses travaux de composition, était était contrôleur d'orgue dans les églises. Il a fait également beaucoup de travaux pour gagner sa vie à côté. Donc, le fait d'avoir plusieurs vies, notamment Jean Crasse, par exemple, alors Nadia Boulanger, qui a eu aussi des multiples vies, à qui j'ai consacré aussi un album, sont forcément des figures inspirantes. Mais voilà, Jean Crasse, c'était vraiment une volonté sur un même album avec Pierre-Octave Ferroux et Marcel Soulages de mettre en avant ces grands oubliés du répertoire. Du violoncelle et piano avec Nathanaël Gouin. Mais voilà, il y a une richesse en tout cas de composition. Alors tout ce qui est oublié n'est pas forcément bon, mais il y a quand même du bon dans tout ce qui est oublié. Et je pense que l'auditeur, il faut pas avoir peur lorsqu'on est musicien d'apporter au public des choses qu'il n'a pas forcément l'occasion de.
Eh bien, nos auditeurs vont pouvoir en juger avec le final de la sonate pour violoncelle et piano de Jean Crasse par notre invité en balade musicale Astrid Cyranossian et le pianiste Nathanaël Gouin.
Thank you.
Notre invitée en balade musicale, la violoncelliste Astrid Cyranossian, a interprété le final de la sonate pour violoncelle et piano de Jean Kras avec Nathanaël Gouin. Quel violoncelle jouez-vous, Astrid ?
Alors, c'est cet enregistrement. Je joue le violoncelle de Gennaro Galliano, donc grande lignée de luthiers de Naples. Celui-ci date de 1756. Et c'est un violoncelle que j'aime énormément. Qui a la particularité historique d'avoir appartenu au grand chef Sir John Barbieroli. En fait, je joue ce violoncelle depuis quelques temps et j'ai notamment en fait gravé avec ce même violoncelle le concerto d'Elgar qui sortira avec le London Symphony Orchestra qui sortira cette année au mois de novembre, avec notamment aussi le Colibri de Brouck, et puis la sonate de Britten, et puis le Salut d'amour d'Elgar. Petite histoire, j'ai enregistré dans la même semaine l'album Invisible et l'album avec le London Symphony Orchestra. C'est une semaine assez folle. Et donc j'avais choisi le timbre chaleureux et surtout les palettes de couleurs que je trouve assez fraîches du Galliano pour interpréter ce répertoire qui pourrait paraître d'un premier abord assez poussiéreux, mais qui n'a en aucun cas, dans son expression musicale, qui n'est pas du tout apparenté à ce champ lexical poussiéreux, qui est vraiment dans la vivacité, comme vous avez pu entendre avec la sonate de Jean Kras. Voilà, il y a tout un champ d'inspiration très nouveau et très novateur.
C'est une musique passionnante, et vous parliez de Sir John Barbieroli. Comment ne pas oublier la version de ce concerto d'Elgar avec Jacqueline Dupré, une violoncelliste exceptionnelle qui était la femme de Daniel Barenboim et qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Qui était une passionnée.
Qui nous a quittés il y a une quarantaine d'années par une sclérose en plaques. J'ai eu la chance de parler souvent de Jacqueline Dupré avec Daniel Barenboim, avec qui j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance de travailler. Voilà, c'est. Alors, évidemment, ce concerto mythique, je dois quand même vous avouer que lorsque le London Symphony Orchestra, qui était dirigé par John Barbieroli, a joué le premier tutti du concerto d'Elgar, eh bien, j'ai eu une émotion, je dois dire, très 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 vive de me voir, moi, enfant, écouter ce concerto par Jacqueline Dupré et John Barbieroli, et de me dire que voilà, il y avait une sorte de rêve, mais j'aurais jamais rêvé dans mon enfance jouer le concerto de Elgar avec John Barbieroli, mais encore moins avec le violoncelle de ce chef d'orchestre que j'ai écouté toute mon enfance dans ma chambre d'enfant.
Et pourtant, c'est arrivé, comme quoi, vous savez, il faut toujours rêver.
Il faut toujours rêver, mais il faut toujours aussi rêver en se donnant les moyens par le travail
évidemment,
d'arriver à ses rêves.
Évidemment, ouais. Parce que sinon, le rêve, finalement, après ce rêve, on retombe de très très haut si on ne fait pas ce qu'il faut pour justement se donner les moyens. Ce que vous avez fait, personnellement, Astrid, bien sûr.
C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'avoir une approche de mon métier beaucoup plus artisanale que, disons, artistique, parce que je comprends pas très très bien ce que veut dire ce terme de sentir artiste. Je pense qu'on vit beaucoup mieux avec soi-même lorsqu'on se sent artisan et respectueux de la matière que l'on travaille et puis du service finalement que l'on doit au compositeur que l'on interprète, en ne s'oubliant évidemment pas. Mais voilà, en tout cas, le travail quotidien, c'est aussi quelque chose de très important, de prendre un grand plaisir évidemment sur scène. Mais pour moi, un des plus grands plaisirs, qui est très différent évidemment de la scène, c'est le travail quotidien, la recherche permanente, le fait qu'on travaille toujours les mêmes œuvres, qu'on les polie, et c'est ce travail-là que j'ai la chance d'aimer profondément.
Alors, et justement, parmi les œuvres qui vous ont accompagné, que vous avez polissez, je ne sais pas, depuis le début de votre carrière, et même pendant vos années de formation, il y a les suites pour violoncelle seule de Bach.
Oui, bah, les suites pour violoncelle seule de Bach, c'est un petit peu la lecture quotidienne de chevet que tous les violoncellistes gardent bien au chaud quotidiennement. Alors, c'est-à-dire que les suites de Bach, en général, on commence le violoncelle parce qu'on est tombé amoureux d'un prélude ou d'une sarabande ou d'une allemande, et ensuite on passe le reste de sa vie à essayer de jouer ces suites de Bach. Donc, lorsque je les ai gravées, lorsque j'ai gravé la première suite de Bach, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce qu'en fait, finalement, de graver sur un enregistrement, c'est arrêter une interprétation à un certain moment. Alors que c'est de la musique qui est tellement vivante, qui est tellement riche et qui reste quelque part dans une espèce de vibration continue que de temps en temps on emprunte sur le violoncelle, que l'on redonne à l'éternité. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'assez magique avec ces suites de Jean-Sébastien Bach.
On va justement écouter la courante de la suite numéro 1, suivie d'une mélodie arménienne, Garouna, qui parle de quoi,
Astrid? Alors, Karuna, ça parle du printemps. Karou, ça veut dire le printemps. Alors là, c'est un printemps un tout petit peu triste, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la musique populaire, mais surtout dans la musique arménienne, il y a toujours beaucoup de mélancolie dans la joie, et puis d'ailleurs beaucoup de joie dans la mélancolie. Donc voilà, on parle du printemps, mais c'est un printemps peut-être un peu triste, un peu mélancolique. Et voilà, et donc la courante qui est évidemment une danse de cour française très joyeuse et très enlevée.
Astrid Cyranocian, notre invitée en balade musicale sur IDFM Radio, interprétait la courante de la suite numéro 1 pour violoncelle de Bach, suivie d'une très jolie mélodie folklorique arménienne, Garouna. Il y aura un concert que vous allez, auquel vous allez participer lundi, je crois, Astrid Cyranocian.
Exactement, lundi 19 janvier. Donc, j'organise deux concerts avec L'Œuvre d'Orient, un concert aux Folies Bergères, où j'ai réuni un plateau assez prestigieux d'artistes que je peux compter comme mes amis. Donc, à savoir, il y aura Nathan Alboin au piano, Félicien Brut à l'accordéon. Il y aura également le grand pianiste libanais Abdelrahman El-Bacha au piano, Sylvain Tesson pour quelques textes, et la neuropsychologue Sylvie Chocron qui nous expliquera ce qu'il se passe dans le cerveau avec les bienfaits de l'éducation et du don, et puis l'humoriste Sandrine Faroche. Donc voilà, le 19 janvier à 20h30 au Folies Bergères, ça fait partie des concerts importants pour moi parce qu'ils sont dans une chaîne, sur une chaîne de solidarité.
Très bien, bien qu'on se le dise, j'espère que nos auditeurs seront nombreux s'ils n'ont rien de prévu le lundi 19 janvier à 20h30 aux Folies Bergères à Paris, c'est au centre de Paris, très facile à trouver, cette salle un peu mythique, pas forcément pour la musique classique, mais aussi maintenant, grâce à vous, effectivement, c'est un autre programme que les programmes habituels des Folies Bergères. Vous aurez aussi des concerts à l'étranger, parce que vous vous produisez assez souvent. Là, je crois que vous allez donner un concert en Italie, demain.
Exactement, là, je suis sur la route pour l'Italie, et puis voilà, j'ai la chance de... La musique étant un langage universel, eh bien, on a le grand avantage de pouvoir voyager dans le monde entier, et puis de finalement, cette langue qui permet de communiquer sans le verbe, et par l'émotion, par les vibrations... C'est quand même incroyable de la servir. Et donc, je pense faire peut-être un des plus beaux métiers du monde. Voilà.
Vous parlez combien de langues, Astrid ?
Alors, ma langue maternelle, c'est l'arménien. Mais c'est mieux, je pense, que l'arménien. Je parle évidemment l'anglais. Je parle allemand, un petit peu russe. Et puis voilà. Et puis après, je me débrouille un petit peu dans... dans d'autres langues, mais voilà, surtout, disons, quatre langues. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre les langues pour comprendre aussi les langages des compositeurs que l'on interprète.
Bien sûr, bien sûr. Bien écoutez, on va se quitter, malheureusement, trop tôt, parce qu'on aurait aimé parler beaucoup plus longtemps avec vous. Vous avez plein de choses à dire, Astrid Cyranocian. On va se quitter avec Jean-Sébastien Bach, les deux menuets de la suite numéro 1 pour violoncelle, suivi d'un chant arménien très festif, je crois, Shogerjian. Qu'est-ce que cela signifie ?
Shogerjian, ça veut dire « mes chers rayons de soleil ». Thank you.
Jean-Sébastien Bach, nous écoutions les deux menuets de la suite numéro 1 pour violoncelle seule et un chant arménien par notre invité en balade musicale, Astrig Cyranossian. Merci beaucoup Astrig.
Merci à vous tous.
Bonne journée, très bon concert et revenez nous voir quand vous voudrez, notamment pour nous parler de ce disque dont vous nous avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure avec notamment le concerto pour violoncelle d'Elgar.
Avec très grand plaisir.
Vous êtes bien ? Sur IDFM Radio.
Fondé en 2022 à Los Angeles, le Quatuor Webern a enregistré les quatre quatuors à cordes d'Arnold Schoenberg, dont la composition s'étale sur plus de 30 ans, dans un double album sorti sous le label Etc. Le compositeur autrichien, dépositaire d'une tradition musicale germanique, grand admirateur de Wagner, de Brahms, de Beethoven et de Bach, sera le fondateur de la seconde école de Vienne qui rompra avec le système tonal. Le quatuor numéro 1, opus 7, composé en 1905 par Schoenberg, s'inscrit encore dans le langage post-romantique, assez proche de celui de la Nuit transfigurée, opus 4, pour sextuor à cordes. Le premier mouvement, intense et poignant, est appréhendé avec un grand sens des nuances par le quatuor Webern. C'était le premier mouvement du premier quatuor de Schoenberg sur IDFM Radio, en balade musicale, par le quatuor Webern. Le quatuor à cordes numéro 2, opus 10, datant de 1908, est une œuvre de transition qui marque tout à la fois le terme de la période tonale de Schoenberg et le début d'une deuxième phase stylistique que l'on pourrait dire expressionniste. Une œuvre ayant bouleversé le peintre d'origine russe, naturalisé allemand puis français, Vassili Kandinsky, le père de l'abstraction, qui a entretenu avec Schoenberg, qui était également peintre, une abondante correspondance révélant une admiration réciproque entre les deux artistes, mais aussi découvrant une relation étroite entre la musique et les couleurs. À cet égard, je vous conseille très vivement d'aller visiter la remarquable exposition Kandinsky, la musique des couleurs, organisée par le Centre Pompidou et le Musée de la musique à la Philharmonie de Paris. L'exposition se tient jusqu'au 1er février. Vous avez donc encore quelques jours pour vous y rendre. L'aspect ironique, désespéré et amer qu'inspire la découverte par Schoenberg d'une aventure de son épouse avec un jeune peintre suicidaire est remarquablement suggéré dans le deuxième mouvement du quatuor numéro 2 de Schoenberg dans l'interprétation du quatuor Webern.
Thank you.
C'était le deuxième mouvement du quatuor numéro 2 de Schoenberg par le quatuor Webern, extrait d'un double album sorti sous le label belgo-néerlandais, etc.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Changeons de style musical avec Jacques Offenbach, surnommé le petit Mozart des Champs-Élysées. Nous débutons ce matin notre série en hommage à la jeune soprano Jody DeVos, fauchée par le cancer en juin 2024 à l'âge de 35 ans, avec Offenbach Colorature, le premier des 6 albums gravés pour Alpha Classics qui ont été réunis dans un coffret et complétés par un concert inédit. Née en Belgique, formée à l'Institut de musique et de pédagogie de Namur, puis à la Royal Academy of Music de Londres, la carrière de Jody DeVos démarre en 2014 à la suite de son deuxième prix au concours Reine-Élisabeth de Belgique. Elle va alors enchaîner les engagements. Adèle de la Chauve-Souris à l'Opéra Comique, Offenbach à l'Opéra de Liège, l'Acmé de Léo Delibes à Tours, le Timbre d'Argent de Saint-Saëns, Salle Favart, etc. Et en 2018, Jody DeVos consacre un bouquet d'air colorature d'Offenbach qu'accompagne Laurent Campellone à la radio de Munich, un enregistrement couronné diapason de l'année 2019. Voici Jody DeVos, pétillante dans les couplets de la dompteuse Olga, extrait de Boule de neige d'Offenbach. Après cet air de boule de neige, Jody DeVos gazouille dans Un mari à la porte, l'inventaire des charmes de Rosita sur une valse tyrolienne.
Thank you.
Quel plaisir d'entendre magnifiquement chanter Jody DeVos, mais aussi quelle tristesse avec sa disparition si prématurée à 35 ans. Heureusement pour nous, le label Alpha Classics lui rend un très bel hommage avec la publication d'un leg de 7 disques dont nous écoutons quelques-unes des perles de l'album Offenbach Colorature dans la première des émissions que nous lui consacrons. Poursuivons avec la barcarolle des Contes d'Hoffmann et le duo fameux « Belle nuit, ô nuit d'amour » par Jody DeVos et la mezzo-soprano Adèle Charvet qui en sont les interprètes idéales. Elles sont accompagnées par l'orchestre de la radio de Munich sous la baguette de Laurent Campellone. Nous allons refermer notre première émission en hommage à Jody DeVos avec une princesse Fantasia à croquer dans Le Voyage dans la Lune. Un air du Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach sur IDFM Radio. Nous rendions hommage à la soprano belge Jody DeVos, qui était accompagnée par l'orchestre de la radio de Munich, avec au pupitre Laurent Campellone. Un album Offenbach, extrait du coffret sorti chez Alpha Classics, dont nous poursuivrons la diffusion dans la prochaine émission de notre série consacrée à la jeune soprano, disparue beaucoup trop tôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dimanche à 11h. Merci à Francky à la technique. Et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.
fièvreuse, ma tête.